Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il n'y a pas beaucoup de noms qui sont aussi associés à l'idée d'Europe que celui de Robert Schumann. Il faut dire que sa naissance en juin 1886 illustre bien la complexité de l'histoire européenne. Sa mère est luxembourgeoise, son père est né français, mais a été naturalisé allemand en 1871 après l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. Le Luxembourg, la France et l'Allemagne. Non seulement Robert Schumann a trois patries, mais il grandit là où leurs frontières se croisent. À 24 ans, Schumann a déjà perdu son père et sa mère. Catholique et profondément croyant, il pense à entrer dans les ordres, mais choisit finalement de s'installer à Metz comme avocat. La victoire de 1918 change tout. L'Alsace et la Moselle sont à nouveau françaises. Robert Schumann aussi. C'est là qu'il entre en politique. Grâce à sa proximité avec les milieux catholiques, il est élu député de la Moselle en 1919 dans l'idée de défendre le régime du Concordat. Comme l'Alsace et la Moselle étaient allemandes au moment de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, c'est toujours le Concordat de 1801 qui s'y applique, c'est-à-dire que l'État y finance toujours les cultes. Schumann passe les années 20 dans les couloirs du pouvoir sans jamais surgir sur le devant de la scène. Il aurait sans doute eu du mal d'ailleurs, parce que il n'est pas fait pour enflammer les foules ou l'assembler comme un Aristide brillant ou un Léon Blum. C'est un homme d'une parfaite courtoisie, un député timide qui n'aime pas les éclats de voix, très apprécié pour sa simplicité et son honnêteté. À la fin des années 30, Schumann fait partie, comme beaucoup de pacifistes, de ceux qui croient pouvoir calmer le jeu avec l'Allemagne nazie. La guerre éclate pourtant et c'est l'occasion de mettre fin une bonne fois pour toutes à une vilaine rumeur. On lit encore ici ou là que Schumann aurait collaboré avec les nazis. C'est totalement faux. Schumann avait été nommé sous-secrétaire d'État dans le gouvernement de Paul Reynaud. Lorsque le maréchal Pétain arrive au pouvoir, il l'a tout simplement reconduit à son poste sans lui demander son avis. Schumann n'est resté secrétaire d'État que quelques jours seulement sans même le savoir. Non seulement Schumann n'a jamais rejoint Vichy, mais les nazis l'ont rapidement emprisonné pendant 2 ans avant qu'il ne s'évade et passe le reste de la guerre dans la clandestinité, réfugié dans plusieurs monastères grâce à ses contacts dans les milieux catholiques. Au lendemain de la guerre, Schumann reprend sa carrière politique. Il est ministre des Finances en 1946, président du Conseil en 1947, mais c'est au Quai d'Orsay que sa conviction européenne va véritablement s'exprimer à l'été 1948. Schumann est sorti de la Seconde Guerre avec 2 convictions. La première, c'est que ce qui sépare les Européens est moins important que ce qui les rapproche. La seconde, c'est qu'il faut en finir avec cette série de conflits qui ont ravagé l'Europe 3 fois en 75 ans. La paix est une priorité, d'abord parce que le continent est exsangue, mais aussi parce que l'Europe est en train de se fracturer. Le bloc de l'Est d'un côté, le bloc de l'Ouest de l'autre, l'Allemagne est même coupée en deux, avec une RDA passée dans la sphère soviétique. Pour Schumann, il faut définitivement ancrer l'Allemagne de l'Ouest dans le camp occidental. Mais la guerre et les atrocités des nazis sont encore dans toutes les têtes. Faire de l'ennemi d'hier un partenaire, ce n'est pas forcément le discours le plus simple à porter. Mais le temps presse. Robert Schumann sait que l'Allemagne se reconstruit à vitesse grand V. Pour lui, la France ne doit pas reproduire l'échec du traité de Versailles qui a été trop humiliant pour l'Allemagne. Cette fois, il faut donc tendre la main. Alors Schumann travaille à sa manière, pas spectaculaire, pas flamboyante, mais scrupuleuse, minutieuse, pragmatique. Pour lui, la clé, c'est l'économie, parce que l'économie, c'est la paix. Et l'économie, en 1950, eh bien, c'est le charbon et l'acier, autrement dit, l'énergie et l'industrie. Bien aidé par Jean Monnet, il imagine une communauté autour du charbon et de l'acier avec l'Allemagne, mais pas seulement avec l'Allemagne. Il raccroche au projet l'Italie et le Benelux, c'est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas et son Luxembourg natal. L'idée est simple. En liant le destin de ces États, en créant un marché commun, on limite drastiquement le risque d'un retour des visions nationalistes et militaristes. Après s'être assuré du soutien de Konrad Adenauer, le chancelier allemand, Robert Schumann décide de tenir une conférence de presse dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay le 9 mai 1950. C'est 5 ans à peine après la capitulation du Troisième Reich. Ce jour-là, il invite tous les pays européens intéressés à poser les premières bases concrètes d'une fédération européenne. Pour la petite histoire, plus de 200 journalistes français et étrangers avaient été conviés, mais l'invitation avait été lancée à la dernière minute. Et en réalité, ils étaient bien moins nombreux. Il n'y a aucune photo de la réunion et aucun enregistrement du discours. Celui qu'on connaît a donc été enregistré plus tard. Le discours fait l'effet d'une petite bombe et toute une partie du champ politique s'y oppose violemment. Mais Robert Schuman tient bon. Pendant 2 ans, jusqu'à la ratification de cette communauté du charbon et de l'acier, la CECA, 160 millions d'habitants, 210 millions de tonnes de charbon, 33 millions de tonnes d'acier, ça finit par peser sur la scène internationale. Et Schuman voit bien plus loin. L'économie n'est qu'un début. La prospérité, c'est le moyen de la paix. Et la paix, c'est le moyen de l'union. Une fédération, une confédération qui verrait s'effacer le modèle des États-nations toujours un peu tentés de s'opposer les unes aux autres. Mais Schuman sait que c'est une vision à long terme et qu'il n'en verra pas la fin. Il fait d'ailleurs le choix de s'effacer. En 1953, Schuman quitte le Quai d'Orsay et finit par se retirer de la vie publique sans jouer d'autre rôle que celui d'une figure morale. En janvier 1961, Robert Schuman fait un malaise et s'évanouit en se promenant dans la campagne autour de Metz par un froid glacial. Le hasard fait que personne ne le retrouve avant le lendemain. Il ne s'en remettra jamais vraiment et meurt 2 ans plus tard, le 4 septembre 1963. Une mort discrète, un peu à l'image d'une existence qui rappelle par bien des côtés celle d'un moine. Schuman est mort sans laisser de femme ou d'enfant, entièrement dévoué à l'œuvre de sa vie, la vie d'un homme d'État.
Europe 1, historiquement vôtre.